notre conférencier. Mesdames et messieurs, c'est normalement, une assemblée comme ça appartient au président du mouvement qui l'organise, bien entendu, mais enfin, comme il aime déléguer, il a mesuré un petit peu la difficulté de la tâche. Et il s'est dit que finalement, présenter une personnalité comme M. Emonet était une chose très facile. Et alors, comme il avait le choix entre l'élite, la Landwehr, la Landsturm, et même les gens libérés des obligations militaires, il s'est dit que c'était assez facile pour s'adresser à un vieux de la vieille et à un Landsturmien mis à la retraite. C'est donc à ce titre-là que je prends la parole et que j'ai la tâche de vous présenter M. Emonet. Si nous avons choisi de mettre une foi dans les sujets qui nous intéressaient, celui de la défense nationale, c'est que les citoyens de ce pays sont inquiets, à juste titre, d'un certain nombre de mesures qui sont prises ou pas prises et d'une certaine évolution dont ils n'ont pas toujours la certitude qu'elle est ni inéluctable ni judicieuse. Et nous aimons bien comprendre le dessous des cartes, comprendre la raison des choses, et nous nous sommes tournés vers M. Emonet pour lui demander son opinion sur la situation de l'armée aujourd'hui. Jérôme Emonet est de Saint-Branchet, vous le savez, d'une bonne famille, d'un bon district, bien entendu. Il a suivi un parcours parfaitement classique d'école qu'il a amené de Saint-Branchet, en passant par Orcières, vers Saint-Maurice, Fribourg, sauf erreur,
Lausanne,
pour étudier le droit. Et il est revenu à Martigny pour faire, dans une étude de Martigny, son stage d'avocat et de notaire. Il a instrumenté quelques actes, du moins d'après le petit dossier qu'il a remis aux archives du district, on voit que son activité notariale a été assez réduite et assez brève, et assez rapidement, choisissant la fonction publique, choisissant la fonction publique, il fut nommé comme greffier du tribunal d'Entremont assez rapidement. Il y a appris son métier quelques années et puis remplaça le juge Chastelain et devient donc le juge de notre district. On se félicitait d'avoir un juge natif du lieu avec qui les relations étaient particulièrement bonnes et faciles. Et on pensait l'avoir pour longtemps, et puis non, ben voilà. Il nous a fait faux bond assez rapidement pour être ensuite désigné au tribunal cantonal. C'est donc un juge cantonal que vous avez devant vous. Mais ce n'est pas à ce titre-là que nous l'avons invité. Nous l'avons invité parce qu'à côté de ce parcours professionnel, il a aussi un parcours militaire, un parcours classique, je dirais aussi, puisque après son école de recrue, école de sous-officier, officier, il paya en 1987, sauf erreur, son galon de capitaine. Et puis, il a continué au cours d'état-major. Il est aujourd'hui le commandant du, avec titre grade de major, le commandant du bataillon 12 et président de la Société des Valaisans des officiers. Donc, on pouvait guère s'adresser à quelqu'un de plus qualifié. Mais enfin, à ces niveaux-là, il y a des gens qui ont les titres, mais qui n'ont pas tout à fait les profils que nous souhaitons. Je dirais que si on nous demandait pour quelle raison c'est à lui que nous nous sommes adressés, c'est plutôt eu égard à l'activité qu'il a déployée, à l'intérêt qu'il a manifesté dans certaines périodes pour un mouvement de qui s'est appelé, je crois, pour une armée digne de ce nom. Et voilà, c'est donc à cet officier-là, à ce concitoyen, cet ami, que j'ai le plaisir de donner la parole.
Merci. Mesdames et messieurs, je vous adresse mes plus amicales salutations. C'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation qui m'a été faite de vous parler de notre armée. C'est un exercice un peu différent de mon cadre professionnel. Habituellement, un juge, il est assis. Il écoute, il essaye de pas s'endormir, mais en principe, il ne dit rien, peu de choses. Et ce soir, c'est vous qui êtes assis, qui m'écoutez, et moi qui fais un petit peu le rôle du procureur ou de l'avocat, c'est selon, vous verrez. Selon les indications qui m'ont été données, je ne crois pas que ce sont les chiffres et les données relevant du domaine des experts qui vous intéressent, mais plutôt une information générale sur la défense, dans le contexte un peu mouvementé de notre politique de sécurité. J'ai consacré une part importante de ma vie aux activités militaires, 1250 jours environ, soit en moyenne depuis l'école de recrue, 2 mois par année. En dépit de ces chiffres, je ne me considère pas comme un expert de la chose militaire. Mon exposé constituera davantage une réflexion personnelle de citoyen-soldat, éclairée par ma vision toute subjective de ma propre expérience de l'armée. Je souhaite parvenir à vous donner quelques pistes pour alimenter votre propre réflexion dans le débat déjà engagé sur notre politique de sécurité. La politique de sécurité est l'une des tâches de l'État menée principalement par le Conseil fédéral. Elle met en œuvre différents instruments, l'armée bien sûr, mais aussi la protection de la population, appelée aussi protection civile, la politique étrangère, la politique économique extérieure et la sécurité intérieure. Comme élément de la politique de sécurité, l'armée est concernée par l'évolution de cette politique. C'est pourquoi, dans le contexte global de la politique de sécurité, je vous parlerai avant tout de l'armée, mais en tentant d'inscrire sa place actuelle et future dans cette politique de sécurité. Nous vivons l'ère des grands changements. Je vais ainsi essayer de dégager la ligne des réformes passées, actuelles et en cours. Quand je dis passées, c'est donc des réformes récentes quand même, pour voir où ces réformes nous conduisent. Pour ce faire, je suivrai le plan suivant. Je vous parlerai d'abord de l'armée 61, puis de la transition de l'armée 61 à l'armée 95. Ensuite, je traiterai de quelques aspects de l'armée 95, puis de la transition de l'armée 95 à l'armée 21, transition dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ensuite, je traiterai de quelques environ 40 minutes. L'armée 61, tout d'abord. C'est le premier modèle d'armée que j'ai connu. J'en relèverai quelques caractéristiques principales. L'armée avait 3 missions. La prévention de la guerre, la conduite de la guerre et l'aide aux autorités civiles. Du point de vue tactique, le territoire de la Suisse était divisé en secteurs attribués à des troupes déterminées. La préparation à la guerre se faisait principalement pour une troupe dans le secteur qui lui était attribué. On parlait de secteur de la division de montagne 10 ou de secteur de la brigade fortress 10, par exemple. Le système était quelque peu rigide et nous n'étions pas préparés à nous battre dans d'autres secteurs. Il avait en revanche l'immense avantage que les officiers connaissaient parfaitement le secteur où ils devaient, cas échéant, engager leurs troupes. Du point de vue de l'obligation de servir, tout citoyen déclaré apte au service devait accomplir une école de recrue de 17 semaines. Ensuite, ces obligations dépendaient de l'âge. Ainsi, entre 20 et 32 ans, le citoyen appartenait à l'élite de l'armée et devait accomplir 8 cours de répétition de 3 semaines. De 32 à 42 ans, il appartenait à la Landwehr et devait accomplir 3 cours de répétition de 15 jours. De 42 à 50 ans, âge de la fin des obligations militaires, il devait encore accomplir 2 ou 3 services d'une semaine dans une troisième catégorie appelée la Landsturm, dont M. Berthaud a parlé tout à l'heure. Quel était le contexte international? Les années pendant lesquelles j'ai servi sous ce modèle, soit entre 1977 et 1994, ont été caractérisées jusqu'en 1989, date de la chute du mur de Berlin, par la guerre froide. Vous vous souvenez comme moi du climat qui régnait à l'époque envers la défense. L'ennemi était clairement défini, c'était les troupes du pacte de Varsovie, un pacte d'alliance militaire qui unissait, sous la houlette de la toute-puissance militaire qui était alors l'Union soviétique, les pays satellites de l'Europe de l'Est, Allemagne de l'Est, Pologne, Hongrie, Bulgarie, Tchécoslovaquie et Roumanie. La préparation de notre armée se basait sur la manière de combattre de cet ennemi potentiel, dont on craignait à juste titre un raid sur l'Europe de l'Ouest. À juste titre, disais-je, parce que les documents apparus au grand jour après l'écroulement de l'Empire soviétique, ou apparaissant encore aujourd'hui, ont démontré cette volonté d'hégémonie du bloc soviétique et ses plans d'invasion sur l'Europe de l'Ouest. Vous vous souvenez que nos installations de défense, comme celles de nos voisins européens, faisaient l'objet de tentatives d'espionnage systématiques, tentatives qui ont parfois abouti à de gigantesques scandales politiques. Pensez par exemple à l'affaire du brigadier Jeanmaire, condamné en 1977 à 18 ans de réclusion pour espionnage au profit d'une puissance étrangère, c'était l'Union soviétique. Pensez également à d'autres affaires semblables chez nos voisins. En Allemagne, le bras droit du chancelier Willy Brandt agissait au profit de l'Union soviétique, ou à d'autres affaires qui ont également touché jusqu'au commandement de l'OTAN. Vous vous souvenez certainement aussi que malgré la réalité de cette menace et l'éclatante nécessité d'une défense forte, il ne manquait ni en Suisse ni en Europe d'esprits qui contestaient le risque potentiel que représentait le pacte de Varsovie et qui s'opposaient aux dépenses d'armement ainsi qu'à tout renforcement de notre outil de défense, l'armée. Les initiatives en vue de supprimer l'obligation de servir ou réduire les dépenses d'armement n'ont cessé de se succéder. Au début des années 1980, un vaste mouvement pacifiste s'étendait sur l'Europe de l'Ouest à partir de l'Allemagne, principalement pour s'opposer à l'installation en Allemagne de l'Ouest de missiles Pershing, qui rendait très difficile, voire impossible, une invasion de l'Europe. Cela se passait alors que l'URSS venait pourtant d'envahir l'Afghanistan au mois de décembre 1979. Vous aurez remarqué comme moi que les regrets de ceux dont l'histoire a démontré qu'ils s'étaient trompés en prônant le pacifisme à l'époque n'occupent pas une grande place de l'actualité de nos médias. Selon mon expérience personnelle de commandant de compagnie à l'époque, les exigences du service quant aux performances exigées de la troupe et des cadres, de la préparation de l'instruction ou encore de la discipline, se sont accrues entre 1980 et 1989 sous la conduite de chefs militaires d'envergure, tels par exemple Roger Mabillard ou Jörg Zumstein ou Adrien Tschumi, pour n'en citer que quelques-uns. Arrive en 1989 la chute du mur de Berlin. Cet événement qui a préfiguré l'effondrement de l'Union soviétique et en est un peu le symbole est d'une importance décisive dans l'évolution de notre défense, je dirais dans l'évolution plutôt de notre politique de sécurité. Il marque la fin de l'opposition classique entre l'Est et l'Ouest, ce qui a considérablement bouleversé les données stratégiques. Cet événement n'a précédé que d'une vingtaine de jours le vote du peuple sur la suppression pure et simple de l'armée, initiative qui avait été soutenue de manière tout à fait inattendue par le tiers de la population. Le bouleversement était à la fois extérieur par la fin de l'affrontement Est-Ouest et intérieur par le succès inattendu des opposants à la défense armée. Le Conseil fédéral, par le département militaire emmené à l'époque par M. Willigert, a alors accéléré la mise en œuvre d'un processus de réforme qui était déjà en gestation avant la votation du 26 novembre 1989. La réforme fut baptisée Armée 95, l'objectif étant qu'elle soit réalisée à cette date. M. Willigert tiendra ce pari. Nous allons maintenant examiner la transition d'armée 61 à armée 61, à armée 95, pardon, transition qui est intéressante parce que le processus dans lequel nous nous trouvons maintenant répète les mêmes schémas. Schématiquement, le processus de réforme fut mené de la manière suivante. Une commission présidée par le conseiller aux États Schorr, radical d'Appenzell, sauf erreur, rédigea un rapport qui porte son nom, rapport qui fit une nouvelle approche de la défense et de son outil principal, l'armée. Le Conseil fédéral émit ensuite un nouveau rapport sur la politique de sécurité, intitulé, je cite, « Politique de sécurité de la Suisse dans un monde en mutation », fin de citation, rapport qui a toujours cours aujourd'hui. Ensuite, le Parlement et le département militaire ont émis le plan directeur de l'armée, les lois, décrets et règlements entérinant la nouvelle organisation de l'armée, l'armée 95. Vous vous souvenez peut-être, M. Berthaud y a fait allusion tout à l'heure, que le rapport Schorr suscita de nombreuses réactions dans les milieux militaires et politiques. Quelques citoyens dont je faisais partie en ont pris le contre-pied en rédigeant un manifeste pour une armée digne de ce nom. L'action portant le même nom s'est rapidement étendue à toute la Suisse, et en quelques mois a réuni environ 13 000 adhérents. Parmi ceux-ci, de nombreux officiers et certains de haut rang. Ce succès nous a valu de participer un peu au débat. Ainsi, à plusieurs reprises, des représentants de l'action ont été reçus à Berne par le chef du département militaire. Contrairement à ce que certains ont dit ou cru, l'action n'était pas dirigée contre une réforme. Il était évident que la nouvelle donne stratégique en Europe nécessitait une nouvelle approche de notre politique de sécurité. Ce qu'elle voulait avant tout, c'était veiller à ce que l'on conserve un outil de sécurité digne de sa mission, bref, une armée digne de ce nom. Quel a été le succès de notre intervention? Il est difficile de le dire aujourd'hui. Mais manifestement, le département militaire nous a pris au sérieux, en tous les cas dès qu'il eut compris que nous ne faisions pas une opposition de principe à toute réforme. Il n'a en revanche pas suivi, vous l'aurez deviné, toutes nos propositions, spécialement dans le domaine de l'instruction. je jette un bref coup d'œil sur l'armée 95. L'armée 95 est donc le modèle d'armée qui nous régit aujourd'hui. Quelles en sont les caractéristiques principales? Les missions de l'armée se sont modifiées. La prévention et la conduite de la guerre, qui constituaient les deux principales missions de l'armée 61, ont été regroupées en une seule mission dite de prévention de la guerre et de défense. L'aide aux autorités civiles est devenue la sauvegarde des conditions d'existence et l'on a inventé une troisième mission placée en tête des missions de l'armée, la promotion de la paix. La conduite des troupes en parle comme suit. L'armée contribue à la promotion de la paix. Premièrement, en mettant à disposition du personnel dans le cadre de mesures de confiance, donc à l'étranger, avant tout contrôle des armements, vérification et opérations internationales dans le domaine de la sécurité et de la paix, ainsi que pour agir de concert avec les organismes civils concernés. Deuxièmement, en assurant la sécurité dans le cadre du service d'appui lors de conférences internationales siégeant sur notre territoire. Pour préciser cette mission, le département militaire s'est exprimé comme suit. L'armée est devenue un important instrument de la politique étrangère. Sa participation aux efforts de l'ONU ou de la CSCE, la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, pour encourager la détente, prévenir les conflits et maintenir la paix, est l'expression de notre volonté de développer et de renforcer une politique de solidarité et de bons offices. Quant au rapport du Conseil fédéral sur la politique de sécurité, donc le rapport 90, qui est en cours aujourd'hui, il déclare « Notre volonté de collaborer à la mise en place d'un ordre mondial de paix plus sûr exige de nous une disponibilité et des moyens financiers accrus pour coopérer et participer aux actions d'entraide internationale. En Europe, nous prendrons part à l'édification d'un ordre de sécurité solide. Le tournant était donc pris vers une nouvelle orientation de la politique de sécurité. Déjà dans le rapport de Nantes, il faut bien le comprendre. Le peuple n'avait certainement pas lu ce rapport ou ne l'avait pas compris, puisqu'il a refusé les haies, ce qui était effectivement un mauvais présage pour une coopération future à l'édification d'un ordre de sécurité européen. Pire, il a même refusé les casques bleus. Bref, ces refus auraient pu être interprétés comme le refus de la nouvelle orientation de la politique de sécurité. Vous verrez plus loin qu'il n'en est rien. À côté de ces grands principes qui servent de base à une coopération internationale accrue, quelle était la réalité d'Armée 95? Du point de vue tactique, l'armée est plus mobile. Les troupes ne sont plus liées à un secteur, comme c'était le cas sous Armée 61. Chaque unité peut être appelée à mener le combat sur tout le territoire de la Confédération. C'est indiscutablement un progrès. Armée 95 a renforcé la défense aérienne, notamment par l'acquisition des avions F-18, sa défense anti-aérienne en se dotant de missiles Stinger. Elle a conservé ses chars de combat de type Léopard, l'un des plus performants du monde. Elle remplace ses chars de grenadiers. Elle remplace aussi son artillerie tractée. Donc l'artillerie, ce sont les canons tirés par des camions. Ça, c'est une image plutôt de la Deuxième Guerre mondiale. Par des chars d'artillerie mobiles de type M109, dont les performances de tir sont améliorées. À mon avis, sous l'angle de l'armement et de l'équipement, Armée 95 a conservé, voire amélioré, notre puissance de feu. À cet égard, le pays dispose de moyens suffisants pour faire face à une guerre de type classique. C'est toutefois sous l'aspect de l'instruction et de la préparation au combat qu'Armée 95 révèle, à l'usage, dirais-je, des faiblesses. Le principe de l'obligation de servir a été maintenu pour tout citoyen apte au service. La durée des services a toutefois été réduite pour tenir compte des exigences de l'économie. L'école de recrue a passé de 17 à 15 semaines. Les obligations militaires ne s'achèvent plus à 50 ans, mais à 42 ans. De 20 à 42 ans, le soldat doit accomplir un nombre précis de jours de service, inférieur à ce qui lui était imposé sous le régime d'armée 61. Après 4 ans d'expérimentation de la nouvelle armée, la principale faiblesse me paraît découler du rythme bisannuel des cours de répétition. En effet, pour soulager l'économie, pour la plupart des troupes, les cours de répétition qui ont conservé leur durée de 3 semaines n'ont lieu que tous les 2 ans. Ce rythme nouveau intervient au moment où la troupe doit se familiariser à de nouveaux matériels et à de nouvelles armes. Les officiers présents ne me contrediront certainement pas. On oublie beaucoup d'un service à l'autre et à chaque fois on recommence, ou presque. Le niveau de préparation au combat en est fortement affecté. Certes, ceci pourrait théoriquement être corrigé dans une certaine mesure si une éventuelle situation de guerre nous en laissait le temps, mais qui peut l'assurer? En voulant soulager l'économie par l'espacement du cours de répétition, l'armée a fait un mauvais choix. Une absence de 3 semaines, 4 pour les sous-officiers et les officiers, est trop longue aux yeux de nombreux employeurs, même si elle n'a lieu que tous les 2 ans. Il en résulte un nombre important de dispenses acceptées, souvent près de 40% de l'effectif. Sachant que le soldat dispensé ne fera service que 2 ans plus tard, qu'il peut ainsi rester 4 ans sans service, vous pouvez aisément imaginer son état de préparation et surtout sa motivation. Il est en effet bien connu que moins l'on en fait et moins l'on a envie d'en faire. Une meilleure solution aurait été de maintenir le rythme annuel des services, mais d'en diminuer la durée. Par exemple, un cours de répétition de 12 jours chaque année, du lundi de la première semaine au vendredi de la 2e semaine, avec un week-end raccourci par exemple. Aux effets négatifs de ce rythme bisannuel des cours de répétition s'ajoute l'effet pervers de la limite des jours de service. Comme je vous l'ai expliqué, le nombre des jours de service à accomplir a été déterminé de manière précise, il l'a été également pour les officiers. Par exemple, un major doit accomplir 1050 jours de service. À l'entrée en vigueur d'Armée 95, la plupart des officiers, à partir du rang de capitaine, avaient déjà accompli le nombre de jours exigés par la nouvelle réglementation. Donc, théoriquement, auraient dû être libérés du service. L'armée ne pouvait évidemment pas se priver de leur service, à peine de se trouver décapité au sens propre du soir au matin. Il fallait donc adopter un régime transitoire, assurant à l'armée de conserver les cadres nécessaires à son fonctionnement. La durée du régime transitoire fit l'objet de discussions. Contre l'avis des chefs militaires qui proposaient l'année 2005, ce qui veut dire que l'officier ne pouvait pas se prévaloir avant cette date du nombre de jours accomplis pour mettre fin à ses obligations militaires, le Conseil fédéral a retenu la date du 31 décembre 1999, semble-t-il pour rajeunir ses cadres. Cela signifie concrètement qu'un officier qui a accompli le nombre de jours de service exigé au 31 décembre 1999 devrait être libéré du service. On s'est très vite aperçu qu'avec cette réglementation, l'armée allait perdre, dans la nuit du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000, une bonne partie de ses cadres et que son fonctionnement serait grandement perturbé. Pour pallier cette inquiétante imprévoyance, le département militaire a dû adopter le régime appelé Progress. Selon ce régime, des négociations sont menées avec les officiers concernés, donc ceux qui peuvent se prévaloir du nombre de jours de service accomplis, à qui l'on demande, poliment, de bien vouloir prolonger leur engagement sur une base volontaire pendant 2 ans, durée susceptible d'être prolongée une 2e fois pour 2 ans. En cas de refus, et si l'armée ne peut se passer de cet officier, elle peut théoriquement le contraindre à prolonger son engagement. Je dis théoriquement parce que dans le contexte actuel, cette possibilité ne me paraît pas très réaliste. Je voudrais encore mentionner ici, mais ce n'est pas une conséquence d'Armée 95, un élément qui affecte le niveau de préparation de l'armée. C'est l'habitude prise par l'autorité de mettre de la troupe à la disposition de manifestations à caractère purement civil. Par exemple, courses de ski ou autres manifestations sportives diverses. En fait, ce sont des bras mis à la disposition des organisateurs pour diminuer les frais de la manifestation. L'armée est alors détournée de sa mission et il n'est pas normal, à mon avis, que le soldat quitte sa famille ou son emploi, avec les inconvénients qui en résultent, pour une manifestation qui ne relève en rien de la défense ou de l'intérêt général supérieur du pays. Pour conclure sur Armée 95, je dirais, l'armée dispose d'une bonne structure et d'un bon équipement. En revanche, les lacunes se dessinent sur le plan de l'instruction et de la préparation au combat. Quelle est la situation actuelle ou de quelle manière se dirige-t-on vers une nouvelle politique de sécurité? Entreprendre la réforme d'une armée n'est pas une chose aisée. La concrétiser est encore plus difficile. Le système de milice que nous connaissons en Suisse ne facilite pas les transitions. Le temps qu'un officier de milice consacre à la chose militaire est somme toute réduit en regard de ses autres engagements professionnels ou sociaux divers. L'acquisition de nouvelles doctrines d'engagement, la maîtrise de nouveaux systèmes d'armement, l'intégration à de nouvelles structures s'en trouve compliquée et ralentie. En bref, changer de modèle d'armée exige du temps, un temps d'adaptation et de nécessaire correction des défauts constatés. Nous en sommes théoriquement là, dans la réforme armée 95, ou plutôt nous devrions y être. C'est-à-dire dans une phase de critique constructive, où l'on teste le mérite de ce que l'on a voulu changer, en y apportant les adaptations nécessaires. À mon sens, nous n'y sommes toutefois pas, et pourquoi ? Parce qu'avant même d'avoir concrétisé Armée 95, nous sommes déjà partis vers Armée 21, 21 comme 21e siècle. Et la date de passage à ce nouveau modèle d'armée a déjà été retenue, le 1er janvier 2003. Ainsi, alors que l'on nous disait qu'il faudrait de 5 à 10 ans au moins pour digérer Armée 95, et que l'on envisageait une lointaine armée 2010, nous voilà déjà en route vers l'armée 2003. J'ai le sentiment que l'idée même d'un changement aussi prochain nous enlève de facto toute volonté de corriger les lacunes du modèle armée 95, notamment dans le domaine de l'instruction. Elle exerce une influence négative sur la motivation de certains cadres. Qui, ne sachant pas de quoi les lendemains de la milice seront faits, et confrontés à des exigences professionnelles toujours plus élevées, hésite à faire un choix qui est en réalité toujours un sacrifice en faveur d'un engagement militaire accru. Si l'on y ajoute les effets du processus PROGRESS dont j'ai parlé tout à l'heure, l'on peut craindre une diminution qualitative et quantitative des cadres de milice au profit de cadres professionnels. Que l'on soit bien clair, je ne suis pas du tout opposé à un renforcement de l'encadrement professionnel dans notre armée, renforcement nécessité tant par l'évolution des techniques que par la difficulté croissante à concilier vie professionnelle et avancement militaire. Toutefois, à mon avis toujours, une armée de milices ne peut survivre que si elle trouve un solide appui dans les élites civiles du pays. Autant pas très éloigné où nombre de parlementaires fédéraux étaient ou avaient été officiers de l'armée suisse, la défense du budget militaire était certainement plus aisée qu'aujourd'hui. La vraie question à poser est la suivante. L'environnement international a-t-il changé depuis le début des années 90 au point de nécessiter une réforme de la réforme armée 95 avant même qu'elle ne soit correctement concrétisée? Je n'ai pas la prétention de pouvoir y apporter une réponse qui relève des spécialistes de l'appréciation de la situation internationale et des risques raisonnables auxquels l'on doit s'attendre. Mais je tenterai plus loin quelques réflexions sur la question. Toujours est-il que le processus de réforme est à nouveau lancé. Comme pour l'armée 95, il commence par le travail d'une commission qui a déposé un rapport sur les lignes directrices en matière de politique de sécurité et de politique militaire pour la Suisse après le tournant du siècle. C'est le titre. Hein. C'est le rapport Brunner, du nom du président de la commission, l'ancien ambassadeur Édouard Brunner, rapport dont on a abondamment parlé l'an dernier. Quel est le contenu de ce rapport ? Le rapport relève avec pertinence que la menace a évolué et que si la Suisse est bien armée face à une menace militaire de type classique, elle ne l'est pas face aux nouvelles menaces que constituent le crime organisé, le terrorisme, les flux migratoires non contrôlés, voire aussi des attaques ciblées portées contre nous à partir de territoires éloignés, missiles à longue portée, mais ça c'est une hypothèse qui est encore assez théorique dans l'histoire. Tout en conservant le principe de la milice, c'est les termes du rapport. Hein. La Suisse doit profondément réorganiser la défense générale, la protection civile et l'approvisionnement économique du pays. D'une manière générale, le rapport considère que la sécurité de la Suisse ne peut plus être assurée comme jusqu'ici par le principe de la neutralité armée, dont le contenu doit être réexaminé à la lumière des nouvelles réalités. L'avenir de la sécurité doit passer par une collaboration internationale accrue, et sur 23 thèses découlant du rapport, 8 en appellent directement à un accroissement de la collaboration internationale. J'en citerai deux qui me paraissent particulièrement significatives. Je cite « Garantir notre sécurité, ce n'est plus seulement maintenir une défense militaire autonome forte, c'est aussi coopérer au plan international. » Et une deuxième « L'analyse des forces et des faiblesses de la Suisse en matière de sécurité intérieure mettent avant tout en lumière les déficits liés aux insuffisances de notre coopération internationale. Ce rapport fut soumis à une vaste consultation. Avant de vous en livrer les résultats, je voudrais en comparer quelques éléments avec ceux du seul avis véritablement opposé, celui du conseiller national Christophe Blocher, que vous avez peut-être eu l'occasion de lire. Parlant du cadre général dans lequel la réforme est entreprise, ou du contexte international, le rapport Brunner dit ceci. Il est impossible de prévoir avec certitude comment évoluera la situation internationale dans les 20 à 25 prochaines années. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Au cours des années 90, l'Europe et le monde ont fondamentalement évolué. Les superpuissances de jadis se sont en partie transformées en partenaires. Comme toute l'Europe, la Suisse reste indirectement confrontée à des foyers d'instabilité, Balkans, Proche-Orient, Afrique, Asie. Elle doit également veiller à ne pas être impliquée dans des phénomènes mondiaux, criminalité organisée, terrorisme, flux migratoires, etc. Sur ce point, le rapport Blocher dit ceci. Même si l'histoire ne se répète pas, le monde se trouvait déjà il y a un siècle au seuil de la paix et du bien-être sous l'impulsion de technologies nouvelles, d'un commerce dépassant les frontières nationales et sous le contrôle bienveillant d'une grande puissance, c'était la Grande-Bretagne, éprise de liberté. Et pourtant, il a rechuté dans le siècle le plus sanglant de tous les temps. L'euphorie qui s'est manifestée dans le monde après 1989 proclamait la paix éternelle et la pérennité des droits de l'homme dans un seul monde que l'on pourrait réaliser avec une portion de peacemaking, donc de gardien de la paix. De tels messages de salut ont été rejoints par la réalité. La sécurité et la puissance ont une paire de notions qu'il n'a pas permis d'ignorer ni aujourd'hui ni demain. L'État national s'est avéré résistant également en Europe. Le transfert du monopole du pouvoir à des organisations internationales telles que l'ONU et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe n'a pas réussi et n'aboutira pas. L'on peut regretter ces faits, mais les nier équivaudrait à méconnaître la réalité. S'agissant de la neutralité, et vous pouvez regarder ces jours avec la guerre du Kosovo, l'exercice d'équilibrisme auquel se livre le Conseil fédéral sur la question, je cite le rapport Brunner. Jusqu'ici, la sécurité de la Suisse a été surtout assurée par la neutralité armée. Aujourd'hui, sa politique de sécurité doit être examinée au vu des transformations intervenues. Le contenu de la neutralité armée doit être considéré à la lumière des nouvelles réalités. La neutralité doit être examinée comme un moyen d'assurer notre sécurité et non comme une fin en soi. À l'avenir, il faut prévoir une application souple et pragmatique de la neutralité. Indépendamment de ce débat de fond, il y a lieu de favoriser la collaboration dans le cadre du partenariat pour la paix et d'autres formes de coopération internationale. Sur la neutralité, le rapport Blocher dit ceci. Il y a lieu de sauvegarder strictement le principe de la neutralité armée permanente. Au vu des menaces futures, elle acquiert une importance nouvelle et spécifique. La neutralité est le moyen diplomatique pour tenir le petit État à l'écart des remous et des pressions exercées par les puissances étrangères. Elle accroît la sécurité et permet en même temps d'avoir un accès crédible aux souffrants et aux survivants dans des régions touchées par la guerre et les catastrophes. Même dans les guerres futures que l'on peut concevoir à l'ère de la paix américaine, c'est assez prophétique, il s'agit pour le petit État que nous sommes de nous tenir à distance par le biais d'une politique de sécurité avisée et indépendante. Une réserve est indiquée avant tout dans le cas d'une guerre menée dans les remous d'autres États. Les institutions internationales. Que dit le rapport Brunner sur cette question ? Cette fin de siècle, caractérisée en Europe par la volonté des États démocratiques, a créé des institutions visant à assurer la paix à long terme. Union européenne, Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe, l'OTAN, le Partenariat pour la paix, le Conseil de l'Europe. La Suisse devrait par conséquent dépasser ses vieilles réticences face à tout engagement multinational. Plus notre rôle sera actif dans ces enceintes, mieux nous pourrons faire valoir nos vues et garantir nos intérêts. Quant au rapport Blocher, il dit « L'OTAN se trouve intégralement sous le patronage américain. Même si les tâches de la nouvelle organisation sont encore peu claires, leur thème n'est plus la défense commune de l'Europe, mais la défense d'intérêts communs sous l'égide des États-Unis. Pour le petit État suisse, Cela ne saurait être une offre séduisante que d'être un appendice de la puissance de paix que représente l'OTAN, laquelle pourrait à l'avenir être appelée à intervenir du Caucase jusqu'en Afrique, de Corée jusqu'en mer Chine méridionale. Même par détour, une adhésion de la Suisse à l'OTAN est à rejeter. Le rapport ajoute aussi que dans l'Union européenne, il n'existe aucune politique étrangère et de sécurité commune. Elle devrait faire défaut encore longtemps. Sur le plan de la politique de défense, l'Europe reste un protectorat, elle demeure dépendante de la protection et des intérêts américains. L'idée selon laquelle la Suisse et sa neutralité armée trouveraient dans cette Europe une protection et un abri sûr contre les dangers qu'elle ne peut pas combattre elle-même à la racine, ou écarter seulement à grand-peine, est une illusion. Les engagements à l'étranger. Le rapport Brunner dit ceci. La Suisse doit manifester sa solidarité sur le terrain et non seulement d'une façon financière ou verbale. Les situations conflictuelles nouvelles exigent que nous joignions nos efforts à ceux de nos partenaires. Une solution consisterait à mettre sur pied une institution unique dotée de professionnels et de personnel de milice volontaires spécialement entraînés et équipés. Un Swiss Solidarity Corps, parce qu'il faut déjà s'adapter au vocabulaire futur, armé pour sa propre défense, et doté des moyens de transport aérien permettant son déplacement autonome, capable d'intervenir dans des missions de secours et de paix. Et sur cette question, le rapport Blocher dit ceci. Les interventions humanitaires, c'est-à-dire les engagements armés à but humanitaire, ne peuvent pas mener au succès. La participation à un conflit étranger ne peut être qu'une intervention, et donc un parti pris politique, ou alors une activité humanitaire impartiale. Une distinction nette entre politique et aide humanitaire nécessaire, possible et présente des avantages. Pour la Suisse, cela signifie concentration sur le Comité international de la Croix-Rouge et sur un corps d'assistance ou d'aide en cas de catastrophe non armée. Engagés judicieusement, ces deux éléments représentent pour la Suisse neutre un atout particulier. Des soldats de solidarité armés sont à rejeter. Un bref résumé des conclusions des deux rapports. Rapport Brunner, une politique de sécurité moderne, tenant compte de nos propres intérêts, comprend en définitive trois éléments essentiels. L'engagement en faveur de la paix dans les régions de crise, qui témoigne de notre solidarité. La coopération internationale pour nous prémunir contre certains dangers et certaines menaces, auxquelles nous ne pouvons plus faire face seuls. Et l'adaptation continue de notre dispositif de sécurité à l'évolution des menaces. Quant au rapport Blocher, la conclusion, la devise pour une nouvelle politique de sécurité doit être oui au changement, oui à une protection réaliste contre les dangers des temps modernes, oui à l'innovation et à l'avenir, non à une politique de sécurité naïve, non à une politique étrangère hableuse et pastichée, non à la folie des grandeurs. Vous voyez donc que ce sont deux visions fondamentalement, dirais-je, différentes de notre politique de sécurité qui s'affrontent, découlant elles-mêmes de deux visions fondamentalement différentes de l'avenir du pays, de son indépendance, de sa souveraineté, voire son existence. La position de M. Blocher fut cependant largement minoritaire dans la procédure de consultation. Selon le conseiller fédéral Adolphe Ogui, au contraire, les résultats de la consultation rejoignent largement les recommandations de la commission Brunner, résultat qu'il a résumé comme suit lors d'une conférence donnée récemment à Martigny à l'occasion de l'Assemblée générale de la Société des officiers du Valais-Romand. 1. Oui à un renforcement de la coopération internationale. 2. Consensus sur une application souple et pragmatique de la neutralité par la Suisse. 3. D'accord de manière claire avec une réforme rapide de l'armée et de la protection de la population. 4. D'accord pour l'armement des forces de maintien de la paix à l'étranger. 5. D'accord pour un maintien du système de milice. 6. D'accord aussi avec la possibilité de modèles différents d'accomplissement du service, par exemple la possibilité d'un service en un seul bloc. Fort des résultats de la procédure de consultation, le Conseil fédéral a fait un pas de plus. Et c'est la deuxième étape du processus de réforme, après le rapport Brunner qui en constituait la première. Il a élaboré les lignes directrices politiques du Conseil fédéral qui fixent les premières bases d'une nouvelle stratégie en matière de sécurité baptisée « la sécurité par la coopération ». Ce qui veut dire, toujours selon le conseiller fédéral Ogui, une coopération internationale accrue et une coopération renforcée sur le plan interne. Je cite encore, « La direction fondamentale de notre future politique de sécurité est donnée d'emblée avec ce titre, donc la sécurité par la coopération. Pour assurer la sécurité de la Suisse, il s'agit d'améliorer l'intégration des divers instruments de la politique de sécurité à l'intérieur du pays et de renforcer la coopération avec les autres États et organisations. » Notre ministre de la Défense en tire les deux conséquences suivantes pour les missions dévolues à notre armée. Donc je vous rappelle que l'armée a trois missions, la promotion de la paix, la défense et la sauvegarde des conditions d'existence. S'agissant de la défense nationale, tout d'abord, il est possible de réduire encore les effectifs de l'armée en conservant le principe de la milice. Le Conseil fédéral veut développer ensuite les deux autres missions de l'armée, la promotion de la paix en introduisant la possibilité d'armer les troupes de paix à l'étranger et la sauvegarde des conditions d'existence. Le rapport Brunner et les lignes directrices politiques du Conseil fédéral vont déboucher sur le rapport de sécurité 2000. Ce sera la troisième étape du processus de réforme de notre politique de sécurité. Cette étape est imminente puisqu'annoncée pour le deuxième trimestre de cette année. Le rapport devrait être publié au mois de juin. Le rapport de sécurité 2000 servira de base à l'élaboration d'un nouveau plan directeur de l'armée, de la nouvelle armée 21. Ce sera la quatrième étape du processus, suivie en cinquième étape par les nécessaires adaptations législatives. Nous connaîtrons le visage de la future armée quand le nouveau plan directeur aura été élaboré. Mais que peut-on déjà envisager ? Indépendamment des implications politiques sur l'avenir du pays, sur lesquelles je n'ai pas à m'étendre à peine d'être hors sujet, quelles incidences pour l'armée pouvons-nous attendre de cette nouvelle orientation de la politique de sécurité ? Je rappelle que pour l'heure, la Suisse est bien dotée en moyens dits conventionnels, chars, artillerie, défense contre avions, aviation, pour mener une guerre de type classique. Que jusqu'à aujourd'hui, sur la planète, la Suisse est bien dotée ou qui existe encore sont des conflits où l'on engage des moyens conventionnels, donc de type classique. Qu'il me paraît donc logique de conserver les moyens de mener une guerre classique, à moins que l'on admette qu'il n'y aura plus jamais de guerre. Je le souhaite comme vous, mais la réalité ne satisfait pas toujours nos souhaits, fussent-ils les plus légitimes. Ces réflexions m'amènent à l'examen d'un aspect qui sous-tend toute la réforme, c'est l'aspect financier. Si l'argent est le nerf de la guerre, il est aussi, hélas, le nerf de la défense. De 1991 à 2001, le département militaire a fourni une contribution de 9 milliards de francs à l'assainissement des finances fédérales. Comme le dit avec beaucoup de pragmatisme M. Ogui, les moyens dictent nos possibilités. On compare volontiers pour les justifier les dépenses militaires à une prime d'assurance, comparaison que je trouve bonne. Chacun sait que l'on ne paye pas avec beaucoup de plaisir la prime, mais que l'on est bien content de se savoir assuré lorsqu'un sinistre nous touche. Il semble ici qu'avec notre défense, ce n'est pas la valeur de l'objet assuré, mais la capacité financière de l'assuré qui détermine le montant de la prime et donc de la couverture. L'aspect financier est toutefois tellement essentiel que M. Ogui a même déclaré à Martini, et je cite, « Une réforme de notre armée est nécessaire pour plusieurs raisons, premièrement, les finances. » Fin de citation. Mais nous pouvons être rassurés à écouter M. Ogui. Toujours selon lui, une comparaison internationale nous montre que nous ne sommes pas seuls, que les réformes envisagées sont étroitement liées à l'évolution de la politique de sécurité en Europe, évolution qui se caractérise par plusieurs tendances. Quasiment toutes les armées réduisent leurs composantes de défense classique, par les États-Unis, en raison de la situation financière et des nouvelles menaces. Les effectifs diminuent, l'accent est mis sur des forces de réaction rapide dotées d'un équipement moderne, engagées donc en priorité hors des frontières nationales. Les aspects financiers de la réforme nous montrent donc que l'on va vers une réduction des dépenses affectées à l'armée. Or, le Conseil fédéral veut développer la mission de promotion de la paix et celle de sauvegarde des conditions d'existence. Comme ce développement engendrera fatalement un accroissement de dépenses, l'on peut, sans être grand comptable, en déduire que les dépenses affectées à la défense nationale proprement dite vont diminuer de manière plus significative que celles affectées globalement à la sécurité. Jusqu'où se fera la réduction au détriment de l'outil de défense ? L'avenir nous le dira. En guise de conclusion, une nouvelle politique de sécurité, amorcée dès le début des années 1990, prend forme. Elle est orientée principalement vers la coopération internationale, puis vers la sauvegarde des conditions d'existence, et enfin vers le maintien d'une capacité de défense de type classique. Cette politique s'inscrit parfaitement dans le contexte européen, qui voit dans tous les pays une réduction des dépenses d'armement et des effectifs, et un accroissement des forces de réaction rapide destinées en priorité à des engagements hors des frontières nationales. Au-delà des questions politiques qu'elle soulève, on peut craindre que cette orientation ne réduise la capacité de défense conventionnelle. Or, c'est une leçon de l'histoire récente et ancienne. Un outil de défense performant, donc une armée, ne se construit pas en quelques semaines ou en quelques mois. Sa préparation se compte en années, et encore faut-il que les décisions de principe soient prises, ce qui peut également prendre du temps. Je ne puis que souhaiter que nos autorités sauront conserver l'outil de défense dont nous disposons aujourd'hui à l'occasion de la prochaine réforme Armée 21. Il sera, à mon avis, suffisamment tôt, à l'occasion de la réforme suivante, d'envisager une réduction si l'évolution vers des temps meilleurs à laquelle on semble croire confirme une certaine capacité de durée. Je citerai pour terminer le général Guizan, qui déclarait à la fin de la guerre « L'imagination est un don assez rare. Notre peuple, dans sa grande majorité, ne sera pas en classe demander, dans les années à venir, pas plus qu'en 1920, en 1930 ou même après, si le pays pourrait se trouver menacé à nouveau ni comment. Ce que nous avons fait, à partir de 1933 surtout, pour l'alerter, pour en appeler à sa conscience et à sa vigilance, ce que nous avons fait sera toujours à refaire. Dont acte, mon général. Je vous remercie de votre attention.
Je vous remercie le conférencier pour ses propos. C'est évidemment seulement une petite partie de la prestation que nous pensions lui demander, puisque le reste sera les réponses aux questions qui vont surgir. Je salue l'arrivée de quelques amis qui nous ont surpris étant presque à l'heure et ayant commencé. J'ai omis de vous transmettre de la part de M. Bierry des salutations de notre conférencier de l'année dernière, Olivier de la Créta, qui salue l'Assemblée, n'ayant pas pu la rejoindre, et nous invite à poser les questions qui vous viendraient aux lèvres.
Moi, j'ai pas une question, j'ai deux remarques.
Oui.
La première, c'est qu'il semble, et la guerre actuelle dans les Balkans nous montre de plus en plus, que l'Europe devient de plus en plus en fait le laquais des États-Unis, puisqu'on voit que les États-Unis continuent de s'armer et avoir une défense relativement forte, alors que tous les pays de l'Europe font des réductions énormes sur leurs moyens de défense. La deuxième remarque, c'est quant au système bisannuel de l'armée suisse. D'après des conversations que j'ai pu avoir avec certains officiers, donc des brigadiers, divisionnaires, etc., de notre armée, il semble qu'en 2003, on risque bien de retourner à un système annuel, puisque d'une part, au sein de l'armée, on se rend compte que le système bisannuel pose des problèmes d'instruction évidents, et puis même au niveau économique, de plus en plus d'entreprises se rendent compte qu'ils préfèrent finalement avoir des officiers ou même des gens qui travaillent chez eux qui quittent leur entreprise 3 semaines jusqu'à 32 ans plutôt que d'avoir des cadres supérieurs qui quittent pendant 3 semaines, 1 mois, même tous les 2 ans jusqu'à 42 ans, ce qui pose évidemment plus de problèmes une fois que les gens sont formés, qui sont cadres supérieurs, des assurances ou des banques.
Merci.
Bon, sur le deuxième point, par rapport au rythme bisannuel des cours de répétition, effectivement, le département militaire a le souci de cette question. Il y a des discussions qui sont en cours avec les grands dirigeants de l'économie pour trouver un modèle qui permette quand même d'avoir des soldats préparés et qui gêne le moins possible l'économie. Alors ça, en tout cas, c'est pratiquement admis que le rythme bisannuel n'a pas été une bonne solution. Là, je suis alors pas seul à le penser. Mais les solutions, il faudra attendre le plan directeur de l'armée pour avoir des réponses. Ce sera peut-être effectivement, on a parlé de la possibilité d'un service en un seul bloc. On pourrait imaginer que le citoyen a le choix soit de faire un service en un bloc qui pourrait durer, je sais pas là, le nombre de jours de service, 300 jours à peu près, qui pourrait durer à peu près une année. Service qui sera peut-être plus approprié pour certaines troupes, qui nécessite une préparation spéciale, de meilleures conditions physiques, des choses comme ça, on peut imaginer. Ça, il y a différents modèles à l'étude, mais je sais simplement qu'il y a des modèles à l'étude, mais j'ai pas de données là-dessus. Je ne sais pas si peut-être Jean-Luc sait quelque chose là-dessus. Non.
Il y a des modèles assez souples qui sont envisagés avec la coexistence entre un service en un seul bloc et puis des services fractionnés comme maintenant, mais qui seraient concentrés sur une durée plus brève. Et puis, c'est un système qui pourrait être combiné avec des soldats dits contractuels. Genre un peu volontaire service long à la française, des choses dans ce genre-là, qui permettraient de continuer à disposer des soldats qui auraient fini par exemple un service en un seul bloc, et qui seraient en quelque sorte sur la lancée.
Merci. Frédéric Martin.
Je voudrais juste peut-être vous demander, est-ce que vous connaissez où en est maintenant cette évolution? On a parlé il y a quelques années du fait que les États-Unis allaient surtout avec l'Angleterre, éventuellement la France, occuper la zone atlantique et l'Europe, et petit à petit abandonner, entre guillemets, au Japon, la zone pacifique et, l'obligation de surveiller très attentivement l'évolution de l'armée chinoise, dont on parle peu, qui peut peut-être devenir un jour une armée agressive, comme l'armée japonaise en son temps. Est-ce que vous avez quelques renseignements sur cette évolution?
Je n'ai rien de précis, j'ai comme vous cette information, enfin, cette connaissance qu'on s'acheminera un petit peu vers une protection atlantique par les États-Unis, principalement, et en collaboration avec l'Europe, et puis qu'ils lâcheraient la partie asiatique aux Japonais, ouais. Mais j'ai pas de...
Est-ce que les Japonais sont en train d'augmenter maintenant leur puissance?
Je crois. Je ne sais pas si quelqu'un peut confirmer.
Les Japonais un jour optent pour l'arme atomique pour lutter contre la Chine, mais ils ne sont certainement pas prêts à le faire.
Je sais qu'en tout cas, il y a quelques années, les Japonais ont repris un processus d'élaboration d'un armement, reconstruction de leur armement, de leur capacité de défense.
On est revenu en Europe, si vous permettez.
Que pensez-vous de l'abolition ou de la suppression pratiquement de toutes nos fortifications? Une partie, quoi.
Ouais. On avait des outils là qui étaient adaptés à une certaine forme de combat d'une époque, mais je pense que moi je suis assez d'accord que c'est plus adapté maintenant. Parce que le problème c'est qu'il y a la protection que constitue la forteresse et l'arme qui sert la forteresse. Alors les armes étant désuètes, c'est un coût immense pour changer ça. Alors il y a d'autres moyens maintenant de protection et on s'axe plutôt vers des moyens de feu mobiles. Il y a un canon, quand il est fixé quelque part, même s'il est bien protégé, il n'a qu'une capacité réduite d'intervention sur un secteur déterminé. C'est plus l'idée de la nouvelle conception des armées, où on veut des armées plus mobiles avec capacité d'intervention dans des secteurs différents. Mais alors, effectivement...
Est-ce qu'on pourrait faire la comparaison avec le chasseur à l'affût qui attend que le chameau passe, et puis celui qui court après, qui est plus mobile?
C'est un peu ça. Il y a maintenant un programme en cours pour l'installation de canons dits bisons. C'est un programme qui a été mis sur pied par la Suisse. C'est un canon très performant qui tire jusqu'à 40 km. Il en existe un en dessous d'Andermatt, à Glutsch. Il y en a un qui est prévu à Mandelon, au-dessus dans le Val d'Airain, à Savatan. Actuellement, c'est vrai que ces armes sont protégées par un certain nombre de... On parle même par rapport à ces fameux missiles Maverick qui percent 4 ou 5 mètres de béton. Mais jusqu'à quand? Donc ça peut être pas un investissement parce que c'est très cher, hein, c'est très coûteux. Et puis alors, justement, la limitation de la capacité d'engagement à un secteur déterminé, même si on les fait tirer dans un grand rayon d'action.
On parle d'engagement des troupes à l'étranger. Bon, pour l'instant, on parle de volontariat. Mais quelle sera la marge de refus de servir lorsqu'on nous obligera à sortir?
Alors, il faut d'abord qu'on décide, hein, si... Il y aura quand même des décisions qui devront être prises si on peut sortir avec des armes. Et là-dessus, je pense que le combat n'est pas encore joué. On pousse dans ce sens, mais ce n'est pas encore sûr. Alors, quand on parle de ça maintenant, on dit, mais ce sera de toute manière que des volontaires ou que des professionnels et tout. Mais enfin, bon, jusqu'à quand on peut se dérober à des obligations dès l'instant qu'on commence à s'engager là-dedans, je ne sais pas. Mais ce qui importe surtout, c'est de voir que c'est un changement fondamental avec une politique neutralité armée comme pratiquée jusqu'ici, hein. C'est ça.
Une question qui est peut-être délicate pour un officier en activité. À ton avis, quelle est la capacité propre de résistance des hauts cadres de l'armée à cette évolution? Est-ce qu'elle existe ou est-ce qu'ils épousent très facilement la politique du Conseil fédéral?
L'impression que j'ai, c'est que... Dans les hauts officiers, on suit cette politique. Maintenant, est-ce qu'on a choisi les hauts officiers par rapport à ça? Je ne sais pas, hein, je ne suis pas dans l'instance de décision. Mais on peut imaginer que dès l'instant qu'on limite l'outil de défense ici et le sens qu'aurait cet outil de défense dans une évolution future, l'officier ne voit peut-être plus l'intérêt. L'officier qui donne toute sa vie à la chose militaire ne voit peut-être plus l'intérêt direct à ne servir qu'ici, puis il rêve un petit peu d'évasion et d'expérience internationale ou exotique.
Vous avez parlé des raisons financières qui poussent à réformer l'armée une fois de plus. Vous avez montré que la défense nationale risquait de devoir payer encore plus, enfin de devoir payer encore plus. Dans le rapport Brunner, on parlait aussi d'engager plus de professionnels et par rapport aux miliciens. Mm-hmm. Ça va coûter aussi beaucoup plus cher. Voilà. Parce que c'est un des éléments aussi qui vont faire que... Mais même pour la défense intérieure, à la limite, l'engagement de professionnels va rehausser la facture énormément.
Oui, donc on sait que l'engagement de professionnels est très coûteux, ça c'est sûr. Donc on renoncera à d'autres choses. Alors maintenant, on peut peut-être avec quelques professionnels faire autant qu'on fait avec plus de miliciens. Ça c'est possible. Mais il me semble que l'évolution, enfin c'est un peu le message que j'ai voulu vous donner par rapport à l'armée, c'est qu'inéluctablement, on va réduire les dépenses affectées à la défense classique. On a maintenant un bon outil de défense. Je considère qu'avec Armée 95, on a les moyens, si on met les mesures d'instruction nécessaires pour avoir une bonne défense classique. Mais que l'évolution, si on accentue l'accroissement des deux autres missions de l'armée, inévitablement, on va réduire les dépenses sur l'armée. Alors, si on les affecte à des professionnels, ces dépenses, ça ne veut peut-être pas forcément dire qu'on les réduit, mais ça veut dire qu'on aura beaucoup moins de miliciens. Mais on parle aussi je crois que je l'ai dit, de réduction d'effectifs, voire de réduction de la durée des services et tout. Donc on diminue les coûts aussi de ce côté-là. Mais on a un petit peu le sentiment que on ne sait pas si c'est la situation internationale qui dicte le nouvel outil de défense ou si c'est la capacité financière. Bien sûr qu'on peut, on doit tenir compte des deux choses. Le politicien qui dirige le pays doit prendre en compte différents intérêts, mais manifestement sur cette question, parfois il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser, sinon, même si elles sont coûteuses. On sait bien que maintenir actuellement ce que je propose, maintenir l'outil de défense avec sa capacité actuelle jusqu'à une prochaine révision, ça coûte. Mais les primes d'assurance sont à prix.
Parce qu'on a continué à faire payer à l'employeur, donc en bonne partie à l'économie, le salaire des personnes faisant le service militaire, de la protection civile et des autres acteurs qui font du service civil.
Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre, moi je ne sais pas quelle est la participation. Il y a ces cartes de compensation, mais je ne sais pas alors... je ne sais pas combien coûte, peut-être un chef d'entreprise pourrait dire combien coûte le soldat qui part en cours de répétition. Est-ce que l'employeur est tenu de mettre quelque chose en plus que la caisse de compensation ou bien?
Pour l'instant pas, donc ce qu'il y a c'est que finalement on cotise tout à la même caisse, mais aussi bien le service militaire, les pertes de gains et tout ça, alors je ne sais pas exactement le pourcentage que ça fait par rapport à... Mais finalement c'est quand même les cotisations patronales qui financent tout ça.
Aussi.
À l'heure actuelle. Ouais.
Oui. Il y a deux choses. Il y a les APG, donc allocation de pertes de gains, qui sont versées par la caisse, dont les cotisations, la caisse alimentée par les cotisations des employeurs, paritairement avec les employés. Et puis à côté, vous avez l'obligation, le code des obligations, bien sûr, qui force les employeurs à verser le salaire aux personnes qui perdent leur temps, disons, pour des causes de force majeure, maladie, accident, service militaire, service de protection civile, des services civils. Et alors, moi j'ai des exemples pratiques, je les ai communiqués à M. Berton en son temps, parce que nous avions eu une divergence, et il s'avère que l'employeur par le biais de caisses de compensation et par des cotisations personnelles, verse plus que le fonds d'AES. Et alors, cette situation, elle est anormale à mon sens. La défense nationale, c'est une question nationale. Le salaire des militaires doit être payé entièrement par la caisse fédérale. Alors, bon, il faut dire que toutes les professions ne sont pas sur le même pied. Il y a des professions qui ont des conventions collectives qui impliquent l'obligation de compenser ce salaire par le plein. Et puis, il y a énormément d'employeurs qui ne sont pas soumis à des conventions collectives. Et je pense que les employés perdent ce supplément. Et puis, il y a aussi des distorsions de concurrence à la sein des entreprises. Vous avez des entreprises qui ont des ouvriers étrangers. Par exemple, je parle de la construction, un domaine que je connais bien. Les entreprises qui ont des ouvriers étrangers, donc, n'ont jamais ce problème de compenser des salaires pour des pertes de servitude. Et puis, vous avez des petites entreprises de la montagne, de la campagne, qui utilisent assez une forte proportion d'ouvriers du pays.